franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Vos quotidiens passent évidemment en revue le nouveau gouvernement. Focus sur quelques personnalités.
La sensation Hulot, d'abord évidemment à la une du Parisien aujourd'hui en France, avec la palme du titre décernée à Marianne.fr. 15 ans après, Nicolas Hulot accepte la proposition de Chirac. 15 ans, en effet, que tous les présidents courtisent. D'ailleurs, la célèbre tirade chiraquienne au sommet de la Terre en 2002, la maison brûle et nous regardons ailleurs, c'est Hulot, dit Libération. Mais c'est donc avec Macron que l'ex-animateur d'Ushuaïa, devenu le plus ardent et le plus populaire des écologistes, a choisi de changer de planète. Alors comment s'est opérée cette prise de guerre? Marielle Cour, dans le Figaro, raconte que c'est vendredi dernier que tout s'est noué dans un face-à-face décisif de 2 heures avec le président. Entretien au cours duquel Nicolas Hulot aurait obtenu que l'écologie soit associée à la solidarité dans son titre, essentiel pour lui. Il aurait aussi obtenu le ministre d'État, de rang, donc le rang de ministre d'État, garantie de pouvoir intervenir sur tout, nous a expliqué tout à l'heure Pascal Canfin à 7h50 alias Salamé. Mais pourquoi alors a-t-il accepté maintenant, alors que le candidat Macron n'avait pas fait de la transition écologique un marqueur de sa campagne? On ne peut plus se permettre d'attendre encore 5 ans, dit simplement un de ses proches. Alors maintenant, ça va se passer comment? Sacré défi que de passer du rôle de prescripteur écologique médiatique au devant de la scène où compromis, reculades et attaques sont le lot quotidien, prévient encore Marielle Cour. Premier dossier ô combien conflictuel, on l'a abordé, Notre-Dame-des-Landes. A-t-il dealé son poste contre l'abandon du projet, s'interroge Ouest-France. Eh bien on a la confirmation puisque le Premier ministre vient d'indiquer qu'un médiateur serait bien nommé sur la question afin d'aboutir à un choix éclairé. Au-delà, Nicolas Hulot parvient viendra-t-il à verdir un exécutif guerre-écolo-compatible, imposé surtout à Bercy de s'engager sur une fiscalité écologique? Il va démissionner tous les 3 mois, prédit déjà un observateur. Dans l'opinion, un de ses soutiens prévient même « On n'est pas à l'abri d'un phénomène Schwarzenberg », référence au célèbre cancérologue qui n'occupait que 9 jours le poste de ministre de la Santé de Michel Rocard. À l'évidence, conclut le Parisien, sa réussite ou son échec seront une clé du quinquennat naissant. Dessin de large dans Sud-Ouest qui résume ce qui attend Nicolas Hulot. On l'y voit arriver en petite barque devant un ours polaire perché sur son iceberg, menaçant. « Attends, il faut que je t'explique le principe de la cohabitation », lui dit-il. En attendant, premier effet Hulot, le titre EDF a dévissé hier en bourse, relève le Figaro Echo. Les investisseurs craignent que le nouveau ministre ne prenne des décisions très défavorables à l'entreprise publique d'électricité.
Autre personnalité moins connue du grand public passée au crible ce matin.
Françoise Nyssen, à la culture, accueille assez dithyrambique de la presse ce matin pour l'éditrice d'Actes Sud. Comment prévenir les services de la rue de Valois, le siège du ministère de la Culture? Une tempête réjouissante va passer dans les couloirs. S'enflamme Philippe Douroux dans Libération. Plus clivant, le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, présenté par l'opinion comme le meilleur ami de François Baroin. L'opinion le décrit comme un expert chevronné, pragmatique, sans œillères, qui a fait de l'expérimentation et de l'autonomie ses maîtres mots. Mais ces mots accréditent justement sa vision de droite de l'école, juge Libération plus sceptique. Agnès Buzyn à la santé, cancérologue réputée, mais Mediapart s'inquiète. La nouvelle ministre n'a jamais caché qu'elle était contre la loi Bertrand qui visait à mieux prévenir les conflits d'intérêts entre labos et chercheurs. En outre, Libération relève qu'un premier conflit d'intérêts pourrait très vite se poser à elle. Son mari est le directeur de l'INSERM. Enfin, Marlène Schiappa, secrétaire d'État aux droits des femmes, elle paie déjà le premier renoncement d'Emmanuel Macron qui avait promis un ministère plein dans le monde. Gaëlle Dupont dresse le portrait de cette hyperactive touche-à-tout qui s'est fait connaître par son blog Maman Travail. Elle y raconte que cette jeune femme adjointe au maire du Mans amenait ses filles avec elle à toutes les réunions qui commençaient après 18h. « Si les gens ne jouent pas le jeu en fixant des réunions plus tôt, eh ben moi non plus, je ne joue pas le jeu », disait-elle. Eh bien voilà, Matignon prévenu.
Voilà, Matignon prévenu. Beaucoup de questions tout à l'heure au standard, on n'a pas eu le temps de les poser évidemment à Édouard Philippe, aussi sur l'absence d'un ministre du logement. On précise que l'attribution a été affectée à Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires. Voilà, il aura la politique de la ville et le logement dans ses attributions. Globalement maintenant, Hélène Jouan, comment ce gouvernement est-il accueilli?
Eh bien, Midi Libre s'extasie. Quel casting! Yann Marais qui parle même de Dream Team. Le Courrier de l'Ouest pointe l'équipe de toutes les audaces. Dans Les Échos, Cécile Cornudet salue une couleur d'ensemble qui est celle du renouveau où le souci de l'expérience l'a emporté sur le casting. Quand même, c'est un sacré défi, la cohabitation de Jean-Yves Le Drian avec Bruno Le Maire et de ce dernier avec François Bayrou, écrit Dominique Young dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, pour souligner effectivement l'inédit politique de cette famille recomposée. Mais sur l'orientation générale de ce gouvernement, certains sont beaucoup plus cash et plus sévères. Pas maladroit, mais pas bien à gauche, juge le site Mediapart. Machine de guerre libérale, dit l'Humanité. Et dans Libération, Laurent Geoffrin appuie d'une formule cette orientation. La droite tient la caisse, la gauche fera des poèmes, juge-t-il. En relevant que ce sont bien les deux transfuges, les Républicains, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui contrôleront le nerf de la guerre Bercy. Geoffrin, qui juge aussi que la brochette de la société civile est plutôt de qualité, mais qu'elle est une délégation fournie de la France d'en haut. Le renouvellement promis par Macron se caractérise plus par une redistribution des cartes au sein de la classe dirigeante qu'une ouverture à l'ensemble de la société civile dont on se gargarise, dit-il. Le Figaro estime comme Libé que ce gouvernement penche à droite, mais lui, évidemment, s'en félicite.
On termine, Hélène, avec une nouvelle tête confirmée aux 20h de France 2.
Oui, c'est Anne-Sophie Lapix que j'ai choisie, confirme la PDG de France Télévisions au Parisien ce matin. C'est une journaliste expérimentée, incarnation du service public. C'est la meilleure candidate possible, juge donc Delphine Ernotte, qui nie toute raison politique à la mise à l'écart de David Pujadas. Élise Lucet lui a d'ailleurs posé la question cash hier. Y a-t-il eu des pressions politiques ? Non, a-t-elle assuré. Mais elle use du vocabulaire ambiant pour justifier sa décision de renouvellement. 16 ans aux 20h pour David, j'estimais que le temps était venu d'un nouvel élan. La semaine dernière, pourtant, rappelle le Parisien, la direction sabrait le champagne pour fêter le score du journal de Pujadas, passé devant TF1 pour la deuxième fois cette saison. Alors la rédaction de France 2 s'émeut du calendrier de cette éviction, mais renouveler même quand ça marche, c'est le credo assumé par Delphine Ernotte. Hier, PPDA a envoyé un tweet compatissant à David Pujadas.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse sur Inter.